Plusieurs auditeurs nous ont écrit récemment pour nous poser la même question. Je choisis une lettre qui est caractéristique. Elle émane de Mademoiselle V à Vesoul, dans la Haute-Saône. Voici la question. Comment doivent être interprétées les paroles suivantes contenues dans le Nouveau Testament? En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jean chapitre 6, verset 53. Et ce texte en 1 Corinthiens 11, versets 23 et 24, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Cette question, ainsi posée, semble montrer que dans l'esprit du demandeur, ces deux textes font allusion à la même institution, c'est-à-dire à la Sainte Cène. C'est là une erreur d'interprétation. Nous avons bien dit « interprétation ». L'erreur réside précisément dans le fait qu'on a interprété le texte au lieu de le laisser parler tout seul. Il est vrai que dans le texte de Jean, comme dans celui de Paul, Jésus parle de son sang, de son corps et de sa chair. À prime abord, ce sont là des termes de part et d'autre qui invitent à penser au même événement. Cependant, lorsqu'on replace les textes dans leur contexte biblique, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas une description du même fait et qu'on ne peut pas, par conséquent, les unir dans une même discussion pour que l'un vienne en quelque sorte compléter l'autre. Il faut les étudier séparément. Et c'est ce que nous ferons en deux études successives. Joignons-nous donc à cette foule qui se trouvait dans la synagogue de Capernaum. De cette manière, nous ne pourrons que tirer la leçon et seulement celle-là que Jésus destinait à la foule ce jour-là. Nous sommes au chapitre 6 de l'Évangile selon Jean. C'est dans ce texte que nous lisons au verset 53. « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par cette déclaration surprenante, d'autant plus choquante pour les Juifs pour qui l'usage du sang était strictement prohibé par la loi? Pour nous, la question est de savoir si Jésus insiste sur la nécessité de participer au repas eucharistique, comme on l'appelle, ou si ses paroles ne constituent qu'un appel fervent à la foi des hommes dans sa mission et à leur adhésion à sa personne. Eh bien, c'est dans le texte même du discours qu'il faut chercher la réponse. Ces paroles que nous venons de citer se trouvent presque à la fin du discours en question. Reprenons-le dès le début. Après la multiplication des pains, les Juifs, insatiables et avides de sensationnel, demandent à Jésus de faire des miracles qui prouveront qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Et pour le provoquer, ils évoquent leurs ancêtres qui mangèrent de la manne dans le désert par l'intermédiaire de Moïse. Sur cette évocation de la manne, Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans ces premières paroles du discours se trouve la réponse à notre question. Jésus parle de lui-même comme d'un don de Dieu, destiné à communiquer la vraie vie à ceux qui croiraient en lui et qui viendraient à lui. C'est dans ce sens et dans ce sens seulement qu'il parle de sa chair comme d'une nourriture et de son sang comme d'un breuvage. Mais laissons de nouveau la parole au texte. Comme les Juifs murmuraient entre eux, se demandant comment cet homme pouvait se comparer à du pain descendu du ciel, Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Ces quatre versets sont particulièrement explicites. Ils éclairent tout le texte. Jésus met l'accent sur la vie éternelle qu'il est venu apporter. Le pain donné par Moïse avait un effet temporaire, mais le pain que Jésus constitue procure un effet éternel. La seule manière de manger de ce pain-là, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Voyez encore le verset 47. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Cette affirmation est identique à celle du verset 50 qui déclare que celui qui mange de ce pain ne meurt point. Les expressions croire en moi et manger ma chair sont donc synonymes. L'une explique l'autre. D'ailleurs, comment le Seigneur aurait-il pu, comment pourrait-il donner sa chair à manger? C'est précisément la question effarée que se posèrent les Juifs. Ici encore, nous devons laisser la parole au texte. Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Voilà donc sa façon de convier le monde à ce festin. Comment donnera-t-il sa chair à manger? Il l'offrira pour qu'elle soit immolée. Il faut vraiment faire preuve de mauvaise volonté pour ne pas reconnaître ici immédiatement une allusion à sa prochaine crucifixion, c'est-à-dire à sa mort expiatoire pour les péchés des hommes. Dans cette annonce de sa mort, Jésus fait allusion aux victimes immolées sur les autels israélites dont on mangeait la chair. Chaque année, dans le culte israélite, les mêmes sacrifices étaient répétés. Ils n'avaient de valeur que dans la mesure où ils annonçaient la victime suprême. Jésus dévoile ici sa véritable mission. Il sera l'agneau de Dieu immolé une fois pour toutes, dont on devra manger la chair. Cela veut dire que les bénédictions qui découlent de sa mort, le pardon des péchés et la vie éternelle ne peuvent s'obtenir que par la foi obéissante. Il est écrit que Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. C'est pourquoi sa vie publique de prédicateur sera un appel constant à la foi et à l'adhésion à sa personne. Le langage de Jean, au chapitre 6, trouve son écho dans maintes parties de l'Évangile. Par exemple, Jésus dit aussi « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Devant le tombeau de Lazare, on l'entendra dire à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quelqu'un soulèvera peut-être l'objection suivante. Si Jésus ne faisait ici qu'un appel à la foi, pourquoi donc a-t-il usé d'un langage aussi extraordinaire? C'est que la vie qu'il veut communiquer aux hommes n'est pas seulement sa nature morale, c'est sa vie complète, corporelle autant que spirituelle, sa personnalité tout entière. L'expression « la chair et le sang » signifie dans la Bible la totalité de la personnalité. L'apôtre Paul exprime bien cette vérité dans sa propre vie. « Si je vis, dit-il, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Comment cela? Paul explique que par la foi, il s'est assimilé la personnalité de Christ comme un aliment s'assimile au corps. « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Par la foi, Jésus vient prendre place dans l'âme du croyant comme un véritable aliment spirituel. Et le jour de la gloire de cette personnalité ainsi envahie par le Christ sera le jour de la résurrection, où chaque croyant sera la réplique de la résurrection du Christ. C'est pourquoi dans le texte qui nous occupe, Jésus revient plusieurs fois avec insistance sur l'idée de la résurrection corporelle. « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Cette promesse et ses expressions équivalentes reviennent comme un leitmotiv au fil de son discours, aux versets 39, 40, 44, 47, 54 et 58. Ajoutons encore ceci. Pour nous faire comprendre la nature de la relation qui existe entre celui qui mange et celui qui est mangé et ce qui en résulte, Jésus donne l'exemple de sa propre union avec le Père et du même coup nous apprend ce qu'il entend par l'expression « celui qui me mange ». Au verset 57, à la fin de son discours, il déclare « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Autrement dit, Jésus vient d'affirmer que comme je tire ma vie du Père dont je me nourris, celui qui se nourrit de moi vivra par moi. Voilà pourquoi et voilà comment sa chair est vraiment une nourriture et son sang est vraiment un breuvage. S'il y a un moment dans la vie d'un homme où il réalise cette union intime, cette fusion avec le Christ, ce n'est pas dans la Sainte Cène, mais c'est par le baptême, ce suprême acte de foi. En effet, l'apôtre Paul dit que par le baptême, nous sommes ensevelis avec lui et nous ressuscitons avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Il précise que par cet acte, nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous participons ainsi à la vie de la même racine qui est en Dieu. Il écrit aux chrétiens de la Galatie, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » C'est une véritable participation à sa nature divine. Le texte que nous venons d'étudier, dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, n'a donc aucune relation directe avec la Sainte Cène. Elle n'avait d'ailleurs pas encore été instituée. La doctrine désignée aujourd'hui par les théologiens, par le mot savant « transsubstantiation », qui affirme la présence réelle du corps et du sang du Christ dans le pain et dans le vin, ne peut donc pas honnêtement s'appuyer sur ce texte. Elle est encore moins autorisée par les autres passages bibliques, même par ceux qui parlent de l'institution de la scène. Les apôtres n'ont jamais enseigné cette doctrine au premier siècle de l'Église, pas plus que les premiers pères de l'Église, y compris saint Augustin. D'où vient-elle alors? Elle ne fit sa première apparition que plus de 8 siècles après les apôtres, sous la forme d'un traité rédigé par un nommé Radbert Pascase. Elle ne fut définitivement adoptée par un concile qu'au XIIIe siècle. C'est dire que cette doctrine est restée insoupçonnée pendant les 9 premiers siècles de l'Église. À ce point, il nous faut faire une remarque nécessaire. La plupart des questions que nous recevons témoignent du fait qu'une grande partie des lecteurs de la Bible ne s'adonnent à cette lecture qu'à travers leurs lunettes de préjugés. Ils ont reçu un enseignement et ils lisent la Bible avec les vers déformants des idées reçues. Ainsi, le mot « baptême », par exemple, rencontré dans la Bible, fait presque immédiatement penser à la cérémonie qui se déroule autour d'un enfant nouveau-né, alors que le baptême dont parle la Bible n'a rien à voir avec ce rite institué par les hommes. De même, les expressions « manger ma chair » et « boire mon sang » font presque automatiquement surgir, comme par un réflexe conditionné, l'image de l'hostie consacrée, contenant réellement le sang et le corps du Christ. Or, qui sait être et demeurer objectif, reconnaît vite que cette représentation de la Sainte Cène ne correspond pas au mémorial que le Christ a institué. Qu'est-ce donc que cette institution? Quelle est sa signification réelle et sa raison d'être? C'est ce que nous verrons, si Dieu le veut, lors de notre prochain rendez-vous.